Et voici la deuxième partie du LEM avec toujours de vrais morceaux de Finistère dedans. Quoique, sommes-nous vraiment au Finistère? Une deuxième invitée qui est enseignante chercheuse à l'ISEN, école d'ingénieurs orientée numérique de Brest. Et elle est anthropologue, elle vient du Brésil où elle a étudié en particulier les religions afro-brésiliennes, des communautés religieuses du Sango, je ne sais pas si je prononce bien, hein, à Maceió, capitale de l'état d'Alagoas, et celle du Candomblé à Salvador, capitale de l'état de Bahia, deux villes du nord-est brésilien. Autrement dit, un secteur du Brésil où la population est plus noire de peau. C'est le reflet de l'esclavage qui a aussi marqué ce pays, comme toute l'Amérique. Et il sera bien question aussi de mémoire de l'esclavage, d'histoire aussi, de populations minorisées également. Une histoire personnelle et intime s'y mêle, puisque Larissa Fontes a elle-même été initiée à l'une des religions. Elle s'est vraiment immergée dans son sujet. Elle en a même fait un livre qui a pour titre « Un musée silencieux, la collection Persévérance et les Xangos du Brésil ». Avant d'être anthropologue, elle était photojournaliste. Il y a une logique à son parcours, logique qu'elle va nous raconter. C'est donc Larissa Carvalho Fontes. Bonjour.
Bonjour Véronique.
Alors, comment est-ce qu'on passe du journalisme photo à l'anthropologie déjà?
Bon, peut-être en voulant aller jusqu'au bout des choses et en valorisant le temps, ce qu'on ne peut pas en journalisme. Il y a le côté factuel, enfin tous les jours... On doit parler des choses différentes. Et moi, quand j'ai rencontré les religions afro-brésiliennes, bah, tout simplement, je suis tombée amoureuse. Je me suis dit, je veux faire ça. Et la communication ne répondait pas aux questions que je voulais poser. Donc, en anthropologie, je pourrais rester sur place, vivre avec ces gens et apprendre comme ça, qui est justement la méthodologie de l'anthropologie. C'est de vivre avec nos interlocuteurs et de ne pas avoir même besoin de poser des questions.
Ah oui, donc ça part quand même du journalisme au sens de l'enquête, hein, on va dire ça, c'est ça en fait.
Oui. Ouais. Bah, j'ai l'habitude de dire que je continue à faire ce que j'aimais faire en journalisme, qui est écrire, photographier, mais un peu plus profondément, on va dire.
Oui, mais alors il faut être passionné vraiment par son sujet. Mais parce que vous n'aviez pas de raison de vous intéresser à ces religions-là au départ, enfin, familiale peut-être, non?
Un petit peu. Si tu veux, ma grand-mère, elle est très adepte du spiritisme kardéciste, qui est d'ailleurs français, Allan Kardec. Qui
était ah oui, bien sûr, d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Au Père Lachaise.
Oui, exactement, la tombe toute fleurie, entretenue encore aujourd'hui. Mmh. Mais bon, j'ai grandi quand même autour des esprits, quoi. Les esprits, j'avais peur hein, un peu... mais je savais ce que c'était et ça m'intéressait, malgré la peur que je pouvais avoir en étant enfant. Et donc, c'était pas un univers étranger, voilà. Et, mais bon, il y a rien, enfin, il y a presque rien à voir avec le spiritisme kardéciste, mm-hmm. qui est un peu austère, presque. C'est plutôt, enfin, pour l'enfant que j'étais, c'était pas très attirant. Alors que les religions afro-brésiliennes, c'est des fêtes, quoi.
C'est ça.
Il y a de la musique, de la danse, ouais. Pas de péché, pas de...
Oui, il y a de la beauté, de la joie, c'est vrai.
Hein. Enfin,
ça, on le voit dans le livre. C'est pas très radiophonique, évidemment, mais on va essayer quand même de le faire passer. Les religions afro-brésiliennes, enfin, je sais pas combien. Est-ce qu'on les a recensées? Est-ce qu'on sait combien il y en a? Alors géographiquement, voilà, elles sont quand même un peu plus situées au Brésil ou pas
Il y en a de partout, évidemment. Ah ouais. Que bah au nord-est, peut-être qu'on peut en trouver plus, mais il y a aussi au sud. Hein, des fois, elles ont des noms différents, des termes différents, comme le Xangô. Comme tu disais, est un terme qui est un peu plus désigné pour les religions afro-brésiliennes du nord-est du Brésil.
Et le Candomblé, c'est une autre appellation pour une autre région, c'est ça?
C'est la même, si tu veux, c'est la même chose, parce qu'en fait, il y a le Candomblé, il y a l'Umbanda. C'est les deux principales religions afro-brésiliennes qu'on a au Brésil, avec plusieurs désignations, comme je disais, ça dépend de la région. Le Candomblé, si tu veux, se prétend un peu plus africain, c'est-à-dire qu'il y a que les Orishas, qui sont les divinités africaines, afro-brésiliennes. L'Umbanda, en dehors, en plus des Orishas, ils ont des entités. Donc on fait la différence entre divinités, hein, et entités. Ce sont des esprits des Amérindiens, des anciens esclaves qui sont sages. Voilà, on a des femmes, des gitans, voilà.
Il y a plus de mélange, en fait.
Oui, c'est ça. C'est une religion qui se prétend un peu plus brésilienne.
Oui.
Mais c'est quand même ouais. afro-brésilienne.
C'est ça, elle se revendique quand même d'origine africaine.
C'est ça, il y a un petit marché religieux de concurrence qui, voilà, le Candomblé se prétend un peu plus africain que l'Umbanda, mais c'est un discours qui ne se... Voilà, c'est pas très vrai.
C'est pas scientifique en tout cas, quoi.
Non, ouais, ouais non.
Et elles sont nées, donc évidemment, elles viennent de l'esclavage, ces religions.
Oui, enfin, c'est ça.
Comment elles se sont formées, entre guillemets, parce que ouais. C'est difficile de...
Ouais, bah, je vais essayer de faire clair. En fait, en Afrique, Les divinités, elles sont géolocalisées, si tu veux. Il y a certaines régions, elles ont telle divinité auxquelles elles rendent culte. Au Brésil, quand ces personnes réduites à l'esclavage, elles sont venues dans des bateaux, ils venaient des régions différentes, ils parlaient des langues différentes, ils avaient des dieux différents. Donc, quand ils arrivent au Brésil, les seigneurs, ils leur laissaient faire la fête, entre guillemets, hein, le dimanche, ce qui pour eux était la fête et le repos. Pour les personnes en situation d'esclavage, était leur moment leur moment religieux. Donc voilà, chacun avait un peu son moment de culte. Là, on voit donc la naissance d'une seule maison de culte, un seul endroit, avec différents dieux africains réunis dans un seul panthéon.
Et de quel pays d'Afrique, oui, en général, ils venaient
Alors, beaucoup de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a le Bénin, on a le Congo, mais aussi on a Angola, Mozambique... Togo, c'est difficile à savoir. Moi, je ne suis pas africaniste, je ne me suis jamais penchée vraiment sur l'Afrique, malheureusement. Je veux encore le faire avec ma collection d'objets dont on parlera, d'essayer de regarder vraiment de près les origines. Mais les personnes, quand elles étaient vendues avec le nom du port de départ et pas vraiment... d'où elle venait originellement, de quel pays. Donc ça fait encore plus de difficultés pour qu'on trace la réelle origine.
Mais il y avait suffisamment de ressemblances quand même entre ces cultes africains pour qu'ils puissent justement créer une sorte de religion commune.
Oui. Ouais. Si on va à Salvador de Bahia, on voit vraiment que c'est l'Afrique au Brésil.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, parce que j'ai eu la chance d'y aller.
La nourriture, les couleurs, les gens.
Oui, tout à fait. Et c'était toujours donc des religions, les religions africaines, c'était toujours des religions à base de divinité. Enfin, parce qu'on parle d'animisme souvent dans les religions africaines, mais enfin, c'est peut-être pas incompatible d'ailleurs.
Non, bah, c'est ce qu'on appelle des religions animistes. C'est un terme qu'au Brésil, on n'aime pas beaucoup. En France, j'ai dû réapprendre à l'employer avec un peu d'antipathie. Parce qu'en fait, c'est souvent, je pense que plusieurs religions sont animistes, mais on ne le dit pas. L'animisme, c'est de donner un peu de sens à des objets.
Oui, mais, de donner un esprit ou à la nature. Enfin,
oui,
c'est ça,
une espèce de révérence. Ouais. Mais si tu veux, on peut faire ça aussi ailleurs, quand on a un peu un crucifix, qu'on garde un peu comme un amulet, comme quelque chose de spécial pour nous. Les religieux afro-brésiliens, ils ne pensent pas que les statues, elles, le dieu. C'est une représentation du dieu.
Mais il y a besoin d'une incarnation quand même, parce que pourrait très bien... Si, ouais.
Bah, il y a l'incorporation, la transe d'incorporation. Donc, ils prêtent leur corps au dieu. Donc, si tu veux, eux-mêmes, ils deviennent les objets des dieux.
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc, sont des religions où il y a les objets, où ils ont une place, vraiment une place sacrée. On sacralise les objets. Mais s'il n'y avait pas d'objets, on a été dans l'histoire des religions afro-brésiliennes, on a eu beaucoup de répressions où les gens cassaient tout de suite les objets. Et ce n'est pas pour autant que les dieux sont morts et qu'on a arrêté de pratiquer.
Alors voilà, on arrive au cœur du sujet. La collection... alors, il y a une histoire, en fait, déjà de ces religions afro-brésiliennes, en tout cas à l'endroit, en Alagoas. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça remonte à loin. Hein.
Alors, ça remonte à très siècle. Loin. Ouais. Entre 1900 et 1912, on a eu quelqu'un qui était au pouvoir, un gouverneur, c'est-à-dire qu'un chef d'État au niveau de l'État. Et
pour une quelqu'un famille
qui,
même.
Ou une famille, c'est Malta, ça. Ouais, c'était la famille Malta. Et donc, cette personne avait évidemment une opposition très forte puisqu'il était au pouvoir depuis 10 ans. On ne peut pas faire autrement.
Et donc, ça use.
C'est ça. Il a eu des accusations de corruption, de prêter de l'argent et puis de faire ses business tout seul. Et il continua quand même au pouvoir. Et vers la fin de 1911, début de 1912, cette opposition qui détenait les médias, donc les journaux papier de l'époque...
Donc c'était quand même démocratique, si on veut, au sens où, en tout cas, il y avait une liberté d'expression.
Il y avait, okay. Oui. Et il avait aussi le sien, il essayait d'avoir le droit de réponse, mais c'était pas très efficace. Mais donc cette opposition commence à publier au journal que monsieur tel, qui était très lié au gouverneur, a été vu en sortant de la maison de culte de tel sorcier, parce que les termes employés, c'était ça, hein, c'était des sorciers, magie noire. Et ils ont commencé une campagne de diffamation comme quoi, diffamation entre guillemets, hein, parce qu'en gros, on est d'accord que c'est
de
pas grave.
Des fake news.
C'est ça, des fake news, c'est ce comme j'appelle pour dire que, pour montrer, en fait, pour essayer de démontrer que ces phénomènes n'est pas du tout neuf, c'est pas du tout nouveau.
Donc les gens de pouvoir étaient liés.
C'est un outil, pour à utiliser avec des buts politiques. Et donc la population croit à tout ça. Et donc cette opposition qui avait créé un petit groupe pour créer des agitations populaires contre le gouverneur se déguise de bloc de carnaval puisque c'était en février. Donc il y avait des clubs qui répétaient pour le carnaval. Ils se déguisent d'un club de carnaval, ils éveillent la haine de la population, parce que tout le monde était dans la rue, hein, ils se faisaient la fête, et ils commencent à casser, ils envahissent les maisons de culte afro-brésiliens, et ils cassent tout, systématiquement, plusieurs maisons, en faisant vraiment une vraie dévassa dans la ville. Des personnes ont peut-être été mortes, on n'a pas le registre des victimes, parce qu'aucune plainte a été posée, évidemment. Et on a eu des objets qui ont été brûlés et d'autres qui ont été conservés et amenés au siège de cette ligue, de ces groupes d'opposition, qui a tout de suite, le lendemain, hein, 24 heures après, exposé ces objets
donc,
aux fenêtres.
Donc tout n'a pas été détruit alors voilà.
Non, ouais, c'est là où on arrive à la collection Persévérance. Ce sont des objets qui ont survécu à cette répression de 1912, ce qu'on appelle l'opération Shingo. Où les maisons de culte ont été cassées.
Et combien de maisons de culte, en gros,
c'est dur à savoir, ouais. Mais tout ce qu'on observe et tout ce qu'on peut analyser, c'est des reportages de presse. On a très peu de documents historiques. Mais bon, en dehors de la presse, hein, parce que la presse, elle est aussi un document historique, évidemment, on doit regarder avec un regard critique, mais c'est quand même important. Donc on voit, à partir de 1912, les maisons de Shingo, qui étaient un sujet important pour ces personnes, pour ces journaux, jusqu'avant, on voit un laps de silence jusqu'à 1940.
Ah ouais, ça disparaît. 20 ans,
ça disparaît, les gens ont peur, quittent l'État en se disant...
Parce que quelle était la proportion de gens, de ces populations, qui pratiquaient le Shingo, en fait?
C'était on n'a pas des chiffres là-dessus, mais c'était des religions minoritaires, hein, des gens très pauvres, hein, qui n'avaient pas non plus beaucoup de moyens et qui se cachaient parce que, voilà. Donc, ils partent, ils vont à Pernambouc, qui est l'État à côté, ils vont à Bahia, ils vont à Rio, voilà. Ils quittent Alagoas. Et à partir de 1940, ils commencent à revenir. Mais avec une façon de culte un peu discrète. C'est ce qu'on appelle le Shingo prié à voix basse.
Ah oui.
Parce qu'ils avaient peur.
Ils étaient plus assez... En fait, en 1912, ils n'étaient plus assez discrets, en fait, c'est
non.
Ça aussi.
On a des registres, des reportages de presse, où il y avait des fêtes, où ils fermaient une rue, parce qu'il y avait 300 personnes devant la maison de culte. Donc, ils avaient quand même certaines libertés que l'opposition a justement pris comme une protection du gouvernement.
Ah voilà. Oui. Mais ils étaient perçus. Donc y a derrière tout ça, il y a du racisme. Enfin, c'est ça, en fait.
C'est une religion des anciens esclaves, des noirs. Et donc, parce qu'en fait, il faut penser que l'esclavage, elle a été officiellement aboli en 1888.
Ah oui, donc c'était tout frais en 1912.
Oui, c'est ça. Donc il y a beaucoup de le contexte était encore très proche. Mais il faut savoir que c'est fini. Mais il y a aucune politique publique pour que ces gens qui ont été réduits en esclavage reprennent leur vie. Donc ça fait
Ils sont intégrés, quoi, en fait. Ils sont
pas
intégrés.
Il n'y a aucune intégration. D'accord. Donc aujourd'hui, on paye encore. On a des grandes dettes au Brésil envers ces personnes-là. Et ce n'est pas par hasard qu'on voit la communauté de pauvres au Brésil aujourd'hui, elle est majoritairement noire. Donc on voit du racisme religieux. Avant, on parlait d'intolérance religieuse. Maintenant, on parle de racisme religieux parce que c'est ce que c'est.
Et avant 1912, c'est des gens qui vivaient donc dans une espèce d'autarcie où quand même ils étaient un peu mêlés à la population.
Ce qu'on voit de la presse, c'est qu'ils étaient mêlés aussi, mais les maisons de culte, elles étaient toujours localisées dans des quartiers très pauvres où les blancs, ils n'allaient pas vraiment.
Et pourtant, il y avait du un soupçon de catholicisme dans la pratique, c'est ça comment...
Oui, ben ça, on parle de syncrétisme, quand on parle de Brésil, on parle de ça. Le syncrétisme est un phénomène en fait, de protection à ces religions encore. C'est une stratégie qu'ils ont eue pour continuer à pratiquer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la catéchèse, hein, quand ils connaissaient la vie des saints catholiques, ils faisaient des petites associations, c'est-à-dire ah ben, on a Sainte Barbara qui est liée dans son histoire avec la foudre, avec les éclairs.
Sainte Barbara, oui, tout à fait. Ouais.
Et donc,
ouais.
On a... Il y a un saint qui a une divinité qui est de la foudre des tempêtes. Ça. Donc, il faisait des associations et il faisait semblant, en gros, de rendre culte à Sainte Barbara, alors que c'était il y a un saint vraiment en bas, il y avait son hôtel caché. D'accord. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement de anti-syncrétisme de certaines personnes du Candomblé, parce qu'ils disent, ben voilà, on a eu besoin de ça avant, maintenant on a plus, on veut nier ça parce que...
Ah oui, ils rejettent les traces catholiques qu'ils avaient intégrées.
Oya n'est pas Sainte Barbara, sont deux entités différentes et puis on veut sortir de cette logique.
Bon, on va examiner ça à travers les objets.
Echu odara, echu lan lua giri oko. Okuni orita jo, langa langa lalu.
Oui, c'est beau, un rire comme ça. C'était Ayom qui nous interprétait Etchou. Alors, c'est un groupe qui fait justement la passerelle entre l'Afrique et le Brésil. La chanteuse est brésilienne. Les musiciens viennent d'Angola, d'Italie, de Grèce. Et la musique, bon, s'intéresse aussi aux Caraïbes, en plus du Brésil, de l'Angola, du Cap-Vert. Et c'est Plage Magnétique, l'association brestoise orientée vers le jazz, qui nous avait fait découvrir Ayom. Et c'est parce que c'est en rapport avec notre sujet du jour, dans l'EM, donc. Larissa Fontes est photographe, anthropologue. Elle nous fait découvrir les religions afro-brésiliennes à travers les objets d'une collection, donc Persévérance. Persévérance, ça vient d'où ce nom, juste ?
Ça vient très précisément d'une association qui a hébergé cette collection pour longtemps. Donc elle a pris le nom de l'institution.
Donc les objets récupérés en 1912 après le saccage des maisons de Tchango de la Lagoas, il est resté des objets qui ont été brandis comme des trophées, c'est ça ? Et voilà, combien d'objets ont pu être sauvés finalement ?
Alors on a autour de 211 objets, entre pièces d'habits, instruments de musique.
Ah oui, c'est très varié.
Objets, ouais. Statuettes, et puis c'est vraiment varié. Et donc cette collection, elle est abritée actuellement par l'Institut historique et géographique d'Alagoas, une institution très particulière, présente partout dans le Brésil, dans tous les États, il y en a un. Ce sont des institutions qui précèdent les universités, donc très polémiques en termes de rigueur scientifique. Donc cette collection, elle...
C'est comme nos sociétés savantes, un peu
non. Je ne sais pas, je ne connais pas, je ne peux pas faire...
C'est pas
une... Mais bon, c'est un peu un cabinet de curiosité.
D'accord,
sur leur musée. Donc,
okay. Mais c'est ouvert quand même au public, on peut regarder.
Si. C'est une institution privée, mais qui a quand même quelque chose du public, donc ça fait qu'ils sont obligés à ouvrir au public. Donc cette collection, elle est dans cet institut depuis 1950, à peu près, et elle n'a jamais été étudiée. Pas parce qu'on ne s'intéresse pas, parce que c'est un institut qui a toujours contrôlé l'accès à cette collection. Ça fait que c'est encore une deuxième grande violence que ces objets ont vécu. Parce qu'on a perdu beaucoup de choses. J'ai dû travailler avec des laps du silence, de l'oubli et le chagrin de savoir que je ne pourrais pas répondre à toutes les questions.
Parce que là, 1912, il n'y a plus de personnes en vie, en fait, qui ont connu ces objets.
On a perdu les interlocuteurs.
Il y a eu une transmission peut-être intergénérationnelle malgré tout. Il y avait moyen de retrouver des gens qui connaissaient les usages ou...
Si, comme sont des religions de tradition orale, on peut creuser et, en espérant de trouver quelque chose. Mais la population religieuse afro-brésilienne d'Alagoas a aussi été victime de cet oubli, comme je disais avant, et elles sont parties.
Ils sont partis,
voilà. Donc j'ai trouvé des pistes à Salvador. Par exemple, j'ai découvert qu'il y a un orisha, un dieu, qui a été complètement oublié à Alagoas. Donc, il ne fait plus partie du panthéon. J'ai montré des objets qui, pourtant, sont vraiment caractéristiques de cet orisha. Et à Alagoas, presque personne associé à cet orisha. Alors qu'à Bahia, même les jeunes, ils regardaient. Je dis, c'est la casquette de cet orisha. Et ça m'a titillé. Je dis, mais c'est pas possible. On a perdu vraiment un orisha. Et je l'ai constaté. Et ça fait partie de mes recherches post-doctorales, parce que ça a été quand même ma thèse de doctorat sur la collection Persévérance. Et c'est un prolongement de ma thèse que je vais essayer de mettre en place, c'est de récupérer cet orisha.
De ressusciter un dieu, en fait.
C'est ça.
Plus ni moins.
C'est ça, ouais.
Donc il a encore des il a peut-être pas une statuette, mais en tout cas, il a au moins des attributs qui sont encore matériels. Quoi.
Il y a un casque. Qui est très caractéristique de cet orisha. Je peux le voir à Salvador, des orishas incorporés sortir pour danser avec le casque en question. Et il y a des statuettes aussi qu'on peut penser qui est présente, cet orisha.
Et le problème en plus de ces religions, c'est qu'elles pratiquaient de toute façon, il y avait une volonté de secret, c'est ça. Enfin, il y a des choses qui ne doivent pas être dites.
Oui.
Et donc c'est ça aussi, comment est-ce qu'on peut enquêter sur des religions comme ça
En vivant avec eux, en tissant des relations de confiance mutuelles, avec le temps et en voulant s'ouvrir aussi. Parce que je dis souvent, en anthropologie, on donne autant qu'on reçoit. On ne peut pas juste vouloir poser des questions sans donner de nous aussi, je veux dire, de l'énergie, de l'ouverture d'esprit, et de créer des relations de confiance. Et donc, quand je travaillais dans mon master, j'ai travaillé sur le secret rituel. Très lié à la photographie, j'ai obtenu l'autorisation de, de photographier, pour photographier un rituel qui était secret. Et dans cette étude sur le secret, j'ai vu que le secret avait deux dimensions. Il y avait la dimension liturgique, c'est-à-dire que comme c'est une religion initiatique et donc où le temps aussi est important, on a besoin de temps, de maturité spirituelle pour accéder à certains contenus. Et il y avait une autre dimension qui était historique et sociale, c'est-à-dire que la répression dont ces religions étaient victimes. Donc cette envie de se cacher, on ne peut pas s'ouvrir à tout le monde parce qu'on ne sait pas qui c'est qui va nous attaquer, qui c'est que, voilà, le risque qu'on a. Et donc c'est là et eux, mes interlocuteurs d'Alagoas, ils citaient souvent l'opération Shingo comme très présent dans leur peur, dans leur
dans la mémoire de collective. Répression.
C'est ça. Uh-huh.
Et alors, comme tu as été initiée à l'un des rituels, enfin l'une des religions,
de religion, ouais. Je suis initiée à l'Umbanda, dans une maison d'Umbanda, et ça a été très tardif dans ma carrière. Hein. J'ai commencé à travailler avec ces religions en fin 2010. Enfin, fin 2009, pour être précise. Donc, ça fait 13 ans, hein, presque. Et je ne m'étais initiée qu'en 2016. J'habitais déjà en France.
Mmh. Voilà. Ah ouais.
Donc, c'était pas du tout pour accéder aux choses, notamment, enfin, comme je disais, j'ai travaillé avec le secret avant même d'être initiée et j'ai pu accéder à ces informations considérées sacrées et secrètes, même sans ça. Il y a beaucoup d'anthropologues qui le font, qui s'initient pour pouvoir accéder. C'était pas mon cas, c'était parce qu'il faisait du sens pour moi.
Ouais, c'est par proximité, en fait, force, on crée des liens. Et comment ça se passe, une initiation? Je sais pas si on peut décrire ça vraiment, mais.
Normalement, on divise les gens en catégories, c'est-à-dire ceux qui vivent la transe d'incorporation, qui peuvent avoir cette capacité médiumnique de recevoir, de prêter son corps aux esprits. Ce n'est pas mon cas. Et on a cette autre catégorie des personnes qui ne font pas et qui occupent des fonctions auxiliaires dans le culte. C'est-à-dire que si tout le monde rentre en transe, on peut pas organiser la chose.
D'accord. Donc, parce que c'est ça, le cœur de la pratique religieuse, sinon c'est une sorte de transe. Enfin, ça dure longtemps, une cérémonie, c'est ça, c'est très long.
Ça dure longtemps, mais la transe en soi, non, ça dure pas plus de 40 minutes, je dirais. Les orishas, ils viennent, ils dansent, et puis ensuite, ils reviennent. Mais bon, je disais des catégories pour dire de l'initiation. Donc, pour ceux qui reçoivent la transe, c'est beaucoup plus complexe, parce que bon, il faut préparer le corps et l'esprit pour ces phénomènes qui est tout à fait complexe, qui est la transe, de prêter corps et conscience, enfin, de se débarrasser de conscience pour donner place au Dieu. Et pour nous, enfin pour ceux qui n'ont pas cette complexité médiumnique, c'est un peu plus léger. Mmh. Donc on a des rituels qu'on suit, on reste un peu confiné à la maison de culte. Voilà, il y a des rituels à suivre.
Et quel est le rôle des objets? Alors donc on a des costumes, c'est ça forcément, des parures, des sceptres même, c'est ça.
Il y a des habits, des orishas qui sont aussi sacrés parce que quand ils viennent pour danser, ils sont habillés proprement et chacun a son type d'objet.
Tout le monde ne peut pas mettre n'importe quoi.
Non, du tout. Ouais. C'est très strict. Les couleurs sont spécifiques. Chaque orisha a son objet de qui est lié à sa mythologie, c'est-à-dire que Eshu, qui est l'orisha, il a une espèce d'objet où il y a un phallus pour montrer qu'il est le...
C'est le dieu de la fertilité.
De la fertilité, d'accord. C'est ça, de la communication, voilà. Et Ogon, par exemple, qui est un dieu qui était lié à l'agriculture et qu'on a transplanté pour la technologie, il porte un gros couteau de fer, tout en lui a du fer, voilà, donc c'est très spécifique.
Et il y a même des objets qui paraissent vraiment du quotidien, pour le coup, un balai ou je sais pas, j'ai même vu des miniatures de fer repasser.
C'est ça, parce que dans certains rituels, ils représentent certaines... en fait, il y a l'idée de réapprendre certaines tâches du quotidien, donc c'est pour ça qu'il y a ces miniatures-là. C'est un rituel spécifique de l'initiation, qui rassemble plusieurs petits rituels.
Bien, on arrive déjà à la fin de l'émission, donc je pense qu'il va falloir qu'on refasse une émission pour rentrer peut-être plus en détail dans ces objets, dans la façon dont ils sont utilisés et dans la mémoire qu'il y a derrière aussi.
La biographie de ces objets.
C'est ça, parce qu'en fait, ils ont chacun une histoire, les dieux ont chacun une mythologie. Ça, tu as pu retrouver les mythologies de tous les dieux, presque.
C'était mon but, c'était de reconstruire la biographie de ces objets.
Eh bien, merci Larissa. Alors, à la saison prochaine, alors.
Ben, avec plaisir. Merci à toi.